Vous écoutez France Culture.
Je veux dire, je voudrais faire de la philosophie
à la manière des
de la philosophie
policière.
Il faut faire cette plongée que j'appelle Kim Smith.
Dans l'idée qui paraît d'abord.
Les vendredis de la philosophie, aujourd'hui, retour sur le libre arbitre. Lorsqu'il cherchait à définir la liberté humaine, Descartes distinguait ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe. Le domaine de pensée et d'action sur lequel nous avons prise permet à chacun d'assumer pleinement sa part de liberté. L'homme généreux, noble et vertueux, sait que la libre disposition de ses volontés lui appartient en propre. Elle est la condition même de sa liberté. Les débats d'aujourd'hui sur l'autonomie des individus retrouvent sous de nouveaux langages l'opposition entre les déterminismes et le libre arbitre. Les neurosciences, par exemple, montrent que l'activité cérébrale surdétermine les choix conscients. Et plus généralement, la connaissance de plus en plus fine des dépendances, biologiques et sociales, appelle une nouvelle définition des sujets responsables. Pour discuter de ces problèmes, j'ai invité Bernard Bertschy, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'éthique biomédicale et au département de philosophie de l'Université de Genève, Vincent de Goljac, professeur de sociologie à l'Université de Paris 7, et Marlène Jouan, attachée d'enseignement en philosophie à l'Université de Picardie. Alors, Bernard Bertschy, je voudrais commencer par votre livre. D'abord, merci de venir aujourd'hui donc, de Genève. Et vous avez écrit « La neuroéthique », sous-titre « Ce que les neurosciences font à nos conceptions morales », publié aux éditions de La Découverte. Le problème du libre-arbitre, vous le prenez d'une certaine manière à partir de l'angle juridique, c'est-à-dire de la responsabilité. Évidemment, on peut se référer aux neurosciences pour savoir si le cerveau, par exemple, a été endommagé chez un criminel. Pourquoi prendre ce biais-là?
Mais je pense parce qu'il faut distinguer deux types de problèmes. La question du libre-arbitre, qui est une vieille question, dans la modernité, elle remonte en tout cas à la réforme, puisqu'il y avait le traité du serf-arbitre de Luther, auquel Erasme a répondu par un traité du libre-arbitre. Donc c'est une notion, disons, de la modernité, mais qui s'est immédiatement heurtée à des obstacles. Alors l'obstacle était théologique, c'est la préscience divine, la prédestination, etc. Et puis avec l'avènement des sciences nouvelles, on s'est mis à douter du libre-arbitre humain parce qu'on a une conception du monde déterminée où il n'y avait que des atomes en mouvement et on n'arrivait plus dans cette conception du monde à faire une place pour le libre-arbitre, pour l'âme aussi, enfin toute une série de notions que Descartes a par exemple bien articulées et qui sont devenues problématiques. On peut penser à Leibniz, à Spinoza très rapidement. Ça, c'est une question classique du libre-arbitre qui, d'une certaine manière, s'est posée dès le XVIIe siècle, donc avant l'avènement des neurosciences, même si on fait des neurosciences, disons, embryonnaires dès le XVIIIe siècle. Et c'est donc un sujet qui peut être traité indépendamment des neurosciences. Alors, je pense quand même que les neurosciences ont un impact sur cette question-là parce que, d'une certaine manière, tout ce qui se passe en nous passe par notre cerveau. Mais il y a aussi un problème plus sectoriel, plus précis, qui est celui de la responsabilité, comme vous l'avez dit. Quand quelqu'un a mal agi, se trouve convoqué devant un tribunal ou est l'objet d'un jugement moral, eh bien, on pense en général, et dans notre tradition, que pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut qu'il ait pu agir autrement, différemment qu'il ne l'a fait. Or, il y a toute une série de facteurs qui empêchent l'exercice de cette liberté, de cette responsabilité. Alors là aussi, ça ne date pas des neurosciences. On a parlé des conditionnements psychologiques, sociologiques, de l'éducation, etc. Et puis maintenant, il y a longtemps qu'on sait que les désordres cérébraux peuvent entraver la liberté. Maintenant, on peut voir, grâce à l'imagerie cérébrale, toute une série de choses qui sont dans le cerveau. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a de quoi, disons, en tout cas, augmenter le nombre des déterminismes. Je cite dans mon ouvrage ce que disait William Winslade, c'est que sur une étude aux États-Unis, sur 15 condamnés à mort d'un État, tous avaient des lésions cérébrales. Alors, une chose est de le constater, une chose est d'en tirer des conséquences juridiques ou normatives, mais manifestement, le problème, c'est compliqué, il y a un nouvel étage à cette problématique.
Oui, vous donnez l'exemple de quelqu'un qui a un kyste au cerveau et que cela, en quelque sorte, ça empêcherait quelqu'un, un individu qui est atteint de ce kyste au cerveau, de distinguer le bien du mal. Et du coup, ça excuserait, c'est le cas d'un mari qui a assassiné sa femme, ça l'excuserait ou ça diminuerait sa part de responsabilité. Vous prenez ça comme exemple, vous ne le justifiez pas forcément, mais alors, qu'est-ce que ça pose comme type de problème? Est-ce qu'on peut dire effectivement que les neurosciences nous permettent d'observer qu'il y a des responsabilités à des degrés divers selon effectivement les lésions internes?
Alors, il y a des conditions excusantes, comme disent les juristes, effectivement, et les lésions cérébrales peuvent en être une, ne sont pas forcément, bien entendu. Une chose est de constater, comme je le disais juste avant, la lésion, une autre chose est de voir quelles sont les conséquences de la lésion. Alors, dans le domaine juridique, bon, ça varie d'un pays à l'autre, mais en gros, on considère qu'un acte est libre et intentionnel lorsque l'individu savait qu'il agissait bien ou mal, et lorsqu'il n'était pas sous le coup d'une pulsion irrépressible. Alors, il y a des débats. Pour certains juristes, la pulsion entre en ligne de compte, d'autres non. Aux États-Unis, il y a notamment eu énormément de débats là-dessus. Mais en gros, c'est assez facile à comprendre. Si je ne comprends pas ce que je fais, je ne peux pas être responsable. Et si je suis poussé de telle manière que je ne peux pas résister, pensons à l'addiction, par exemple, ma responsabilité est au moins limitée.
Oui, mais alors, si je ne comprends pas ce que je fais, ce n'est pas que je n'ai pas l'intelligence, c'est qu'il y a, en quelque sorte, une incapacité matérielle qui m'empêche d'avoir conscience du bien et du mal, c'est ça?
Alors voilà, mon jugement peut être faussé. Alors, il peut être faussé par ignorance, très simplement, sans aucune lésion. Si j'ignore la loi, je ne peux pas la respecter. Mais je peux la connaître et mon jugement, dans le cas où je me trouve, peut être faussé, par exemple, parce que j'ai une hallucination. Mmh. C'est le cas typique de quelqu'un qui tue un de ses proches parce qu'il croyait que c'était quelqu'un qui lui voulait du mal ou c'était le diable. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Donc, ça fausse le jugement. Ça, c'est un des cas. L'autre cas, c'est où la personne sait très bien qu'elle agit mal, mais ne peut pas s'empêcher. Il y a le cas de certains pédophiles, notamment, où c'est connu. Donc, c'est les deux. Dans le fond, c'est la volonté et l'entendement, les deux facultés maîtresses de l'esprit humain. Quand l'une de ces deux ou les deux sont empêchés, eh bien la responsabilité est limitée. Et le droit voit les choses de cette façon-là.
Bien. Alors, on va reprendre un petit peu ces discussions. Mais auparavant, je voudrais faire un petit tour de table, et notamment avec Marlène Jouan. Vous avez donc, dirigé avec Sandra Logier un collectif qui s'appelle « Comment penser l'autonomie entre compétences et dépendances », publié aux Presses universitaires de France. Et puis aussi un volume chez Vrin de textes de clés de psychologie morale très, très utile. Avec beaucoup de textes, une sorte d'anthologie donc sur l'autonomie, la responsabilité et la rationalité pratique. Alors, vous remarquez dans votre avant-propos que l'autonomie est une notion, alors là, on ne la référera pas à Descartes, mais plutôt à Kant, l'autonomie de la volonté est une notion qui a été beaucoup déconstruite, cette idée d'une institution de soi par la raison pratique, voilà, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne va plus de soi et dans la philosophie a été largement, effectivement, attaquer, critiquer. Est-ce que, malgré tout, vous constatez, aussi bien dans la pensée en dite anglo-saxonne et puis la pensée continentale, une manière de laisser l'autonomie ou au contraire d'essayer de la reformuler?
Non, il s'agit essentiellement de la reformuler, c'est-à-dire de tenir compte des critiques qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, si on laisse de côté Hegel et Nietzsche, tenir compte des critiques à la fois qui ont été formulées contre la notion kantienne d'un point de vue logique, psychologique et logique, d'un point de vue également sociopolitique et enfin d'un point de vue éthique et moral. Ce que les théories anglo-saxonnes font aujourd'hui et ce qu'on a essayé à notre tour de faire dans le volume, c'est de proposer en tout cas une nouvelle configuration conceptuelle de l'autonomie en prenant au sérieux l'idée que c'est un idéal normatif qui est structurant pour nos sociétés et que quels qu'aient été ces mésusages ou ces lubris qui a pu caractériser à un moment donné la conceptualisation de l'autonomie, on ne peut pas aujourd'hui prétendre dire quelque chose sur le fonctionnement de nos sociétés et sur les aspirations des individus dans nos sociétés sans en passer par là.
Donc il était démesuré de prétendre que nous étions totalement libres d'assumer notre volonté. Mais donc aujourd'hui, on peut concevoir qu'il y a des dépendances et voilà, des possibilités quand même d'une autonomie, d'un sujet autonome.
Oui, bien sûr. Alors l'idée, c'était finalement de déplacer la question de l'autonomie du plan métaphysique sur lequel elle était posée auparavant, sur un plan pratique, c'est-à-dire d'abandonner le questionnement sur la possibilité de se fonder soi-même ou de se créer soi-même, et de le diriger vers une réflexion sur les tenants et les aboutissants d'un processus pratique, essentiellement. Et ainsi de saper l'opposition entre, effectivement, dépendance et autonomie, vulnérabilité et autonomie, etc.
Absolument. J'étais frappé aussi dans votre avant-propos du fait que vous liez cela aussi, cette critique de l'autonomie, à des questions un peu sociologiques ou économiques. L'autonomie, semble aujourd'hui se réduire à l'idéologie libérale, c'est-à-dire c'est l'individualisme de l'intérêt, on aurait le libéralisme qui nous dirait il y a des individus autonomes, il faut les respecter, ce sont des consommateurs, ils font ce qu'ils veulent et surtout le moins d'État possible. Et évidemment, on sait qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment diabolisé et qu'on revient peut-être à l'État tout-puissant qui doit absolument réguler et qui sait ce qui est bien pour les autres. Bon, je caricature, bien sûr, mais quand même, malgré tout, on voit bien qu'aujourd'hui, l'idée d'autonomie est... en quelque sorte trop lié à cette idéologie dite libérale. Qu'est-ce que vous en tirez ? Est-ce qu'on peut dire... ça me paraît un peu paradoxal parce qu'il y a encore quelques années ou quelques décennies, l'idée d'autonomie était très valorisée, par exemple, à travers les mouvements autogestionnaires, enfin, tout le monde des années 70. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. En tout cas, ce n'est plus du tout le cas en France, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce que vous en tirez comme idée puisqu'il y a à la fois donc, la philosophie et puis aussi ces mouvements idéologiques et politiques.
Alors la philosophie doit en tenir compte, évidemment. Mais effectivement, le concept d'autonomie a été un concept qu'on pourrait dire critique pendant longtemps. Il y avait derrière un intérêt qui tentait de mobiliser un intérêt à l'émancipation. Et aujourd'hui, on peut dire que le concept d'autonomie a subi, disons depuis les années 1980, une sorte de mutation idéologique. Il a été complètement récupéré justement par l'idéologie libérale. Alors je crois que l'idéologie libérale ne dit pas simplement que nous sommes autonomes, elle dit vous devez être autonome. Elle exige des individus qu'ils soient autonomes. Donc dans le livre, c'est que, par exemple ce que Alain Ehrenberg thématise sous l'idée d'une montée de la norme d'autonomie. Ce qui fait que finalement, on se retrouve avec le concept d'autonomie avec une injonction paradoxale. C'est-à-dire, les gens sont censés vouloir aspirer à diriger leur propre vie, mais ça devient un devoir. Ce qui était un idéal est devenu une prescription. Ce qui est fait une revendication est devenu un impératif. Donc, la philosophie aussi bien doit tenir compte de la manière des aspirations sociales de l'individu, individuelles et sociales à l'autonomie, mais en même temps ne pas se noyer dans ces aspirations pour être à même justement de lire l'utilisation idéologique du concept et de pouvoir également le critiquer.
Alors, Vincent Goljac, vous êtes sociologue, vous avez écrit de nombreux livres sur ces questions aussi de, après tout, des déterminismes sociaux. Vous venez de publier au seuil qui est je. Et j'aimerais vous interroger, avant peut-être d'entrer directement dans votre propos, sur ce mouvement un petit peu récent et peut-être ce paradoxe aussi, parce qu'on dit, voilà, il y avait des mouvements très favorables à l'autonomie, à l'autogestion politique dans les années 70. Et en même temps, philosophiquement ou dans la théorie, on était quand même très proche du structuralisme, qui au contraire nous montrait que le sujet était agi par les structures. Je dis ça pour simplifier. Donc aujourd'hui, alors est-ce qu'on serait dans une sorte de bascule c'est-à-dire est-ce que la théorie sociologique nous ramènerait un peu de sujet, alors qu'elle a analysé beaucoup les processus sans sujet? Et alors, curieusement, à l'inverse, politiquement, on serait dans un repli par rapport à ces idéaux autonomistes ou autogestionnaires?
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a des enjeux théoriques et disciplinaires, je dirais. Moi, je me dis sociologue clinicien, c'est-à-dire que mes référents, c'est la sociologie. J'étais très bourdieusien, par exemple, mais c'est aussi la psychanalyse. Et c'est aussi, donc dans la sociologie, effectivement, on constate depuis quelques années, avec Touraine et d'autres, ce qu'ils ont appelé le retour du sujet. Moi, du fait de ma trajectoire, le sujet n'était jamais parti, était toujours présent. Mon premier ouvrage sur la névrose de classe, où j'analysais les conséquences des changements de classe sociale, montrait bien, je l'avais inscrite à l'articulation entre des phénomènes structurels, ce que vous avez dit, mais encore que maintenant on ne parle plus de cette façon-là, oui, mais oui. comme bourdieusien des déterminations sociales et de la violence symbolique et des enjeux de distinction entre les classes sociales, mais de montrer que, et ça je m'étais appuyé sur Sartre, que par rapport aux déterminismes sociaux, hein, quand Sartre dit l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui, et donc derrière l'idée de névrose de classe, il y avait bien l'idée que le sujet fait quelque chose des déterminations sociales auquel il est confronté. Et que l'hypothèse donc, que je développe, c'est que l'autonomie ou le libre-arbitre ne s'oppose pas à la détermination, bien au contraire, mais c'est parce que l'individu est multidéterminé, que ce soit du côté des neurobiologies du cerveau, de ses positions sociales, des déterminations sociales, ou des déterminations inconscientes, et que ces déterminations ne poussent pas toutes dans le même sens, qu'il est condamné en quelque sorte à être libre, c'est-à-dire il est obligé de faire des choix. Et ça s'exacerbe en quelque sorte avec l'hypermodernité ou dans les sociétés contemporaines. Et j'avais étudié l'injonction paradoxale dont vous parliez tout à l'heure dans les multinationales. C'est-à-dire que l'idéologie managériale, l'idéologie de la réalisation de soi-même, l'idéologie de devenir entrepreneur de soi, je dirais manager de soi, c'est une idéologie alors qui n'est pas, qu'il ne faut pas complètement confondre avec l'idéologie libérale, parce qu'elle n'est pas, elle est, on voit bien que la gauche est fascinée par l'idéologie managériale, même si elle est contre l'idéologie libérale, par exemple, et qu'elle ne comprend pas hein, ces nouveaux systèmes de pouvoir. On appelait avec Nicole Aubert dans le coup de l'excellence le système managinaire pour, en référence à Foucault, au système disciplinaire. Et dans le système managinaire, c'est la mobilisation psychique hein, qui est sollicitée par les dispositifs de pouvoir. Et donc l'injonction, c'est effectivement l'autonomie contrôlée. C'est-à-dire que l'individu doit adhérer librement aux objectifs de l'entreprise et il est reconnu, évidemment, à condition qu'il ait intériorisé cette façon d'être autonome qui est complètement conforme à ce qu'on attend de lui. Et ce paradoxe-là, cette contradiction-là, elle me paraît être au cœur aujourd'hui de la double injonction. Hein. Soyez autonome, mais à condition de devenir des bons performants sur tous les registres, d'être rentable et de correspondre à ce que la société attend de vous pour y être employable, adaptable, etc.
Oui, donc en quelque sorte, le libre-arbitre, là, ici, est en quelque sorte réservé à un domaine de comment dirais-je, de rentabilité ou d'utilité.
Oui, alors, je dirais que c'est contradictoire, parce oui. que par rapport à la sociologie de la reproduction, oui. qui était justement construite sur le structuralisme, la sociologie du sujet met en évidence une contradiction, hein, qui est que les déterminations sont toujours présentes, mais que c'est une grande liberté de ne plus être totalement déterminé par son identité héritée, par exemple, et d'être dans la reproduction. Oui. Quand on était fils ou fille de paysan, oui. on devenait paysan et on épousait ou on épousait un paysan.
Oui, mais alors quand même, Vincent Gaujac, si je me souviens bien quand même de Bourdieu, il est dit que ce ne sont que ceux qui bénéficient d'une position quand même assez privilégiée dans quelque sorte la hiérarchie sociale qui peuvent se permettre de se délester un peu de leur déterminisme. Oui, c'est-à-dire que finalement, il y a quand même une détermination dès le départ qui fait que certains peuvent prendre un peu de jeu à l'égard de leur héritage.
Comme Coluche le disait de façon plus facile à comprendre que Bourdieu, en disant « il y en a qui sont plus égaux que d'autres oui, ». On est oui. tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et Bourdieu avait développé la théorie du capital social, capital économique, capital oui. culturel, qui donne, ou Castel le reprend d'ailleurs, pour être un individu dans la société aujourd'hui, il faut avoir des supports. Oui. Donc les déterminations sociales et économiques sont toujours puissantes. Oui. Mais la contradiction de l'individu hypermoderne, c'est que la mobilité sociale, la flexibilité, ce que j'évoquais dans un autre ouvrage, la lutte des places s'est développée et s'est substituée d'une certaine façon à la lutte des classes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu hypermoderne, il a une injonction à être lui-même et à se réaliser, et que de ce point de vue, la mobilité sociale s'est développée. Sauf que la mobilité sociale, elle était valorisée jusque dans les années 70, jusqu'il y a 30 ans, parce qu'elle était à l'évidence ascendante, Alors qu'aujourd'hui, la mobilité sociale, elle peut être descendante, elle peut, oui, les trajectoires des gens sont en dents de scie, mais on ne peut plus rester à la même place. Donc c'est ça qui est en train d'éclater, c'est la structure des positions sociales est en train d'éclater, et du coup l'individu est flottant. C'est ce que dit Sigmund Baumann par exemple, hein. Les identités deviennent liquides, les individus, la société, hein, devient liquide, et donc les individus ont des trajectoires flottantes. Alors est-ce qu'ils sont déterminés dans cette mobilité ? Oui, par des déterminations économiques liées à la crise, qui est belle démonstration, hein, de l'éclatement de ces structures. Et en même temps, la possibilité de faire des choix dans ce contexte-là dépend effectivement encore massivement des supports, des dispositions, des capitaux dont on dispose.
Bien sûr. Alors, tout cela nous amène dans ces identités flottantes, cette autonomie aussi relative, nous amène sans doute à une redéfinition de la liberté. Bernard Berchi, je reviens à votre livre donc sur la neuroéthique, ce que les neurosciences font à nos conceptions morales. En quelque sorte, vous prenez acte de ces nouveaux savoirs, de cette connaissance du fonctionnement du cerveau, et en même temps, vous exprimez une grande réserve sur leurs impacts pour la philosophie, notamment pour la métaphysique. Puisque vous dites, par exemple, à un moment donné, que le fait que la pensée soit matérielle, et on comprend effectivement qu'on peut effectivement observer tous les mécanismes, les processus neuronaux qui prédisposent nos pensées à s'orienter de telle ou telle façon. Mais en même temps, vous dites que la pensée soit matérielle n'implique pas forcément une absence de liberté. Alors, comment vous pouvez justifier cela et peut-être distinguer les plans métaphysiques et pratiques ?
Oui, je pense qu'effectivement, bon, quand on parle de libre-arbitre, comme on l'a dit auparavant, on part d'une notion qui date d'avant l'avènement de la science nouvelle et donc d'une façon de penser assez différente. C'est-à-dire, à l'époque, quand on parle de libre-arbitre du temps au XVIIe siècle, etc., on pense que l'homme est formé de deux substances, l'âme et le corps, et que les lois qui dirigent le corps ne s'appliquent pas à l'âme, et donc que l'âme fonctionne de façon... J'allais dire autonome, mais dans un autre sens que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Avec, évidemment,
l'homme ne soit pas comme un pilote en son navire.
Tout à fait. Alors, c'est très compliqué chez Descartes parce qu'il arrive très facilement à distinguer l'âme et le corps. Quand il veut expliquer leur jointure, c'est là qu'évidemment les choses se gâtent. La fameuse
glande pinéale.
Voilà, il y a la glande pinéale. Puis il y a aussi ce dont il s'est rendu compte vers la fin de sa vie. Enfin, il est mort avant, mais l'idée que c'est la princesse Élisabeth qui lui avait attiré son attention là-dessus, que l'action de l'âme sur le corps viole les lois de conservation, la loi de la conservation de la quantité de mouvement, ce qu'on appellerait de nos jours la loi de conservation de l'énergie, parce qu'effectivement, en mouvant le corps, l'âme utilise de l'énergie qui vient de nulle part. Et Leibniz s'est bien rendu compte de ce problème-là, et effectivement, on se rend compte, à ce moment-là, que, dans le fond, on ne peut plus conserver la notion, enfin, on commence à se rendre compte, la notion du libre-arbitre classique, que dans un monde déterministe, si l'homme fait partie de ce monde, s'il doit interagir avec ce monde, il n'a pas à sa disposition de force, d'énergie qui soit autre que celle dont le monde dispose. Et donc, il ne faut plus concevoir le libre-arbitre comme une espèce de pouvoir extramondain d'agir sur le monde, mais plutôt... C'est ce qu'on appelle maintenant le compatibilisme, le concevoir comme une action libre lorsqu'elle n'est pas déterminée par un certain type de cause.
Absolument. Alors, maintenant, effectivement, qu'il n'y a plus d'âme avec les neurosciences.
Il y a le cerveau.
C'est pas mal, tout à fait la même chose. Alors, voilà, peut-on encore parler de liberté ? Est-ce qu'on n'est pas à nouveau dans un système de cause et d'effet ? Entre parenthèses, parce qu'on a... On revient sur des classiques, hein, Descartes, Kant. Je suis frappé aussi qu'on revient par les neurosciences aussi au matérialisme du XVIIIe siècle.
Hein.
D'ailleurs, à un moment donné, vous avez fait référence au rêve de D'Alembert. On revient à cette idée que la liberté, c'est une illusion. Hein, dans le rêve de D'Alembert, ce n'est que l'effet nécessaire d'une cause. Alors, en quoi les neurosciences ne nous amènent-elles pas à cette même idée ?
Mais je pense qu'elles nous y ramènent. D'ailleurs, c'est probablement une des causes de mon intérêt dans les neurosciences, c'est qu'un de mes premiers livres était sur les rapports de l'âme et du corps, Descartes, Diderot, même de Biran. Donc j'étais déjà en plein dans ces discussions-là. Et effectivement, on y revient de certaine manière. Pourquoi ? Parce que l'idée qu'il y ait des événements qui ne soient pas causés est absurde. Enfin, Leibniz lui-même le disait, vouloir la liberté comme, dans le fond, pouvoir agir sans cause, c'est-à-dire sans motif, sans raison, c'est absurde. Donc il y a des motifs, il y a des raisons, et ces motifs et ces raisons sont des causes. Ce sont des causes, elles sont prises dans le réseau causal du monde. Donc on ne peut plus définir la liberté comme une action qui est, enfin, une action libre comme étant une action qui est libre de cause. Donc il faut changer sa notion, effectivement, et c'est ce que je disais en parlant du compatibilisme, considérer qu'une action est libre quand elle n'est pas soumise à un certain type de cause, à la contrainte extérieure, ou à certains types de contraintes intérieures ou de déterminisme. Mmh. Et on rejoint donc la question des déterminismes.
Oui, vous dites que les neurosciences ne modifient pas la conception métaphysique de la liberté, mais elles éclairent les déterminismes. Hein. Vous parlez même de... Alors, ça aussi, c'est de neurodéterminisme. Qu'est-ce que c'est ? Je constate aujourd'hui, d'ailleurs, l'inflation absolument incroyable des termes avec le préfixe neuro. Il y a même un côté un peu Bouvard à Pécuchet, dans la neuroesthétique, neurophilosophie, neuro-je ne sais quoi.
Neuromarketing, neuroéconomie.
C'est ça, oui. Tout oui, oui. Hein, ça y est, c'est le
mais
truc.
Mais c'est même relativement grave, dans le sens que, c'est une anecdote que je raconte, mais il y a une étude qui a montré que si dans un article, sur quelque sujet que ce soit, on met une image d'un cerveau qui s'allume par-ci par-là, la croyance dans les conclusions de cet article est augmentée de 25% chez le lecteur, tu vois, même si ça parle tout autre chose. Donc effectivement, il y a une fascination pour le cerveau.
Formidable. Alors,
les gens aussi croient que c'est, quand ils voient une image d'un cerveau qui s'allume, que c'est une photographie du cerveau, ça n'a rien à voir. C'est une construction mathématique. Hein. Donc il y a toute une série de malentendus là autour, et je pense qu'à la fois, les neurosciences, c'est quelque chose qui nous ouvre des horizons extraordinaires, mais il ne faut quand même pas être trop naïf.
Oui. Ça vous inspire une réflexion, Vincent Bojac ?
Je sens que je vais employer le terme neuro pour être bien classé par les nouvelles formes de classement maintenant des enseignants-chercheurs.
Voilà. Neuro-sociologie,
etc. Voilà. Bon, on l'avait déjà vu d'ailleurs avec la sociobiologie, etc.
Bien sûr.
Je pense qu'il y a effectivement derrière aussi des bouleversements épistémologiques, en tout cas des ouvertures épistémologiques, hein, qui est que la remise en question en particulier des modèles de causalité linéaire et systémique et la complexité avec l'idée de causalité récursive, alors que moi j'utilise beaucoup et Morin m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire le sujet, hein, j'aime pas parler de liberté, mais disons cette idée d'un sujet qui pourrait avoir une certaine maîtrise sur ce qu'on a fait de lui, sur les déterminations. Donc. Et donc il n'y a pas de sujet sans assujettissement, donc on est bien d'accord qu'au départ, il faut bien analyser l'ensemble de ces déterminations qui fabriquent socialement, neurologiquement, psychiquement les individus, mais que le sujet, donc, il est à la fois il est produit de tout ça, et en même temps, il est producteur. Il est produit et producteur. C'est-à-dire que, moi, une des hypothèses, par exemple, sur lesquelles je travaille, c'est que l'individu est le sujet d'une histoire, l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Et que c'est dans sa capacité à comprendre en quoi et comment il est déterminé que quelque chose de l'ordre de la liberté, qu'il peut se donner quelque chose de l'ordre de la liberté. Par exemple, par rapport à... On ne change pas son histoire, donc on est totalement déterminé comme sujet socio-historique. La seule chose qu'on peut changer, c'est la façon dont l'histoire est agissante en soi. Et c'est là où le travail du sujet sur lui-même, et c'est bien l'influence aussi de la psychanalyse, par exemple, hein, qui lui donne une capacité, non pas de changer ce qu'il est, c'est au sens par quoi il a été fabriqué, mais son rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire ce qu'on a fait de lui, si je reprends la posture de Sartre.
Marlène Jouan, là on vient de parler de psychanalyse, mais il y a aussi tout simplement l'analyse psychologique. Et dans votre recueil sur la psychologie morale, on voit une quantité de philosophes qui étudient les raisons, les motivations, pas forcément rationnelles, hein, mais aussi émotionnelles, des actions humaines. Alors, est-ce que justement toute cette réflexion ne nous amène pas à repenser une définition de la liberté, notamment quand on étudie les expériences morales, beaucoup plus que les préceptes mêmes, hein, comment finalement on en vient à avoir tel comportement dit moral. Marlène Chouan.
Alors, en fait, je pense que ce serait intéressant peut-être de... Effectivement, le libre arbitre, je crois que c'est un type de liberté. Oui. L'autonomie, c'est peut-être un autre
Bien
type
sûr.
De liberté, un autre usage, et qu'il est important de distinguer les deux. Je pense que le libre arbitre, c'est quelque chose finalement qu'on tient toujours plus ou moins pour acquis. Ça fait partie de nos pratiques d'imputation. C'est un présupposé de toutes les pratiques d'éloge et de blâme. Ce que vous appelez, je crois, une ascription par défaut. De toute façon, on considère les gens en général comme étant responsables d'eux-mêmes. Alors évidemment, toutes les neurosciences là peuvent venir poser des limites sur cette détermination. Mais je crois que l'autonomie déplace la question. C'est-à-dire que le libre-arbitre peut être menacé parce qu'on regarde en fait les choses d'un point de vue en troisième personne, en tant qu'observateur ou en tant que scientifique, et on regarde quelles seraient les causes qui pourraient menacer la liberté de l'individu. Au contraire, quand on parle de l'autonomie, on adopte d'emblée un point de vue en première personne. Et si on définit le libre-arbitre comme un pouvoir de choisir ou comme un agir de soi-même, au sens le plus restreint du terme, je crois que l'autonomie vient après et dit attention, cet agir de soi-même, il peut lui-même être soit autonome, soit hétéronome. Et ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont l'agent s'approprie ce qu'il fait de sa liberté, c'est-à-dire s'approprie ses propres déterminismes, ses propres actions, ses motivations, se posant les questions simplement, mais est-ce que je veux vraiment faire cela? Pourquoi est-ce que je veux faire cela? Quel genre de type de vie est-ce que je veux mener, etc. Donc ça déplace la question, encore une fois, qui est recentrée justement sur le sujet et non pas simplement sur quelque chose qui serait pris dans un processus de causalité naturelle, donc il ne serait lui-même qu'un chaînon.
Juste une petite question, dans votre anthologie, pourquoi ne faites pas intervenir, vous commencez au XVIIIe siècle, pourquoi ne faites pas intervenir les moralistes français du XVIIe siècle qui ont été quand même d'une lucidité extraordinaire sur les motivations morales et psychologiques de ceux qui affichaient des vertus pourquoi ne pas les avoir intégrées?
Non, ça aurait pu être possible. Bon, après, le format lui-même, est limité.
C'est pas du tout un reproche. Hein,
non, mais je crois que je voulais démarrer la question avec Kant, tout simplement. Et c'était pas simplement, l'idée n'est pas simplement de dire, bon, finalement, on est beaucoup moins moral qu'on le prétend l'être ou qu'on le voudrait l'être. L'idée, c'est de poser la question, la manière, finalement, dont les agents adoptent ou non un point de vue moral. Alors, il y a les questions de mauvaise foi, de duperie de soi, de manipulation qui peuvent intervenir et qui, effectivement, étaient déjà thématisées au XVIIe siècle. Mais on ne voulait pas faire une critique de la moralité. On voulait s'intéresser au sujet et à son rapport lui-même à ses propres actions morales, ce qui déplace un petit peu la question. Oui.
Donc, quand vous étudiez, vous, l'autonomie, la question de l'autonomie, vous étudiez, donc, puisque vous parlez de la première personne, plus l'exercice de l'autonomie, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'on voit dans l'autonomie la question de ce qui fait sens pour l'agent et non pas la question des processus causaux qui l'ont amené à faire telle ou telle chose. Donc ça se passe effectivement du point de vue d'une réflexion et d'un processus pratique. La question des causes, c'est-à-dire ce qu'on peut expliquer d'un point de vue scientifique, elle est à l'arrière-plan, mais je ne suis pas sûre qu'elle pèse véritablement sur ce type de rapport à soi qu'on cherche à thématiser.
Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre, e le verdi terre, le discese ardite e le risalite sono il cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto. Dove vai? Quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai oramai fra di noi solo.
Nous reprenons les vendredis de la philosophie. Sur la question du libre arbitre, et nous étions en train de parler de l'autonomie avec Marlène Jouan qui nous disait donc voilà que ce qui l'intéresse, c'est la manière dont le sujet vit son autonomie. Et ça amène à reprendre votre livre, Vincent de Gaulle-Jacq, Qui est je, sur justement cette idée, me semble-t-il, que vous développez d'une autonomie comme devenir, puisque vous parlez aussi de la formation du sujet. Donc il n'y a pas en quelque sorte une autonomie qui, est une sorte de, qui serait un présupposé, hein, que les individus sont autonomes, mais beaucoup plus la construction d'un sujet qui, alors, découvre ses déterminismes ou prend du jeu par rapport à ses déterminismes. D'ailleurs, dans votre livre, vous citez assez largement Sartre et son idée de la programmation, parce qu'on sait que Sartre a étudié beaucoup certaines personnalités comme Genet ou comme Flaubert, pour montrer cette liberté. Hein, je vous rappelle effectivement cette définition de la liberté, ce petit mouvement qui fait d'un être totalement conditionné quelqu'un qui ne reste pas la totalité de son conditionnement, ce que vous disiez d'une certaine manière au début de l'émission, Vincent de Gaulle-Jacq. Alors, est-ce que cette idée à la fois d'une programmation et d'une quelque sorte d'un jeu et d'une construction de l'autonomie serait en quelque sorte éclairante pour aujourd'hui essayer de faire la part de ce que c'est que à la fois le libre arbitre et l'autonomie dans la construction d'un sujet qui n'est jamais totalement libre, évidemment, ni jamais totalement déterminé?
Oui, je pense que la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Je cite une femme qui, dans un des groupes d'implication et de recherche que je fais autour de comment advenir comme sujet de son histoire, cite cette phrase extraordinaire. À 40 ans, indépendamment de moi, j'ai voulu être sujet. Et pour moi, ça évoque toutes les contradictions dans lesquelles on est. La première, c'est que s'il y a sujet, où j'ai repris aussi ce que dit Judith Butler, que j'ai trouvé très, très éclairante sur cette question-là, que s'il y a sujet, c'est parce qu'il y a assujettissement. C'est-à-dire que, et pour moi, comme sociologue, effectivement, oui, les déterminations sociales sont premières.
Ça vient de Foucault, ça, hein, évidemment.
Voilà, vient dans la lignée de Foucault. Et puis, il y a cette question, c'est qu'est-ce que veut dire être sujet aujourd'hui? Parce qu'advenir comme sujet, ça n'a sans doute pas les mêmes connotations et les mêmes enjeux qu'au 19e siècle, au 18e siècle, au Moyen-Âge, etc. Et donc, c'est le contexte actuel qui revient aux injonctions paradoxales, hein, et à l'individualisation et au développement de l'individualisation. Oui. Alors, j'avais bien aimé la phrase de Richard Sennett qui disait « avec le développement de l'individualisme, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau ». Et j'ajouterais par rapport au libéralisme tout à l'heure, avec le développement du capitalisme financier, le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier, d'où l'idéologie de la réalisation de soi-même. Et donc le sujet pour moi aujourd'hui, il est confronté à cette exigence un peu paradoxale, à la fois de répondre, hein, à cette nécessité de l'autonomie, de la responsabilité, de la liberté, tout en étant multi-contraint par toute une série de déterminations qui sont économiques, qui sont neurobiologiques, qui sont psychologiques, familiales, sociales, etc. Et donc, la question d'advenir comme sujet, donc à ce moment-là, par rapport à la question du sens, elle se déplace. Pourquoi ? Parce qu'un autre aspect de cette individualisation, c'est que le sens n'est plus donné de l'extérieur. Avec la crise des grands récits, la postmodernité, etc., chaque individu est en quelque sorte interpellé en sujet, comme disait Althusser en son temps, hein, c'est-à-dire dans la nécessité de construire son propre système de sens pour advenir comme sujet réflexif. Et c'est ces contradictions-là que je trouve intéressantes à analyser aujourd'hui.
Alors, Bernard Merchy, le sujet, le moi, le je, comment arriver à saisir ce qui fait l'unité, et l'unité en devenir, je crois, hein, d'un sujet en construction. À un moment donné, dans votre livre, il y a une formule amusante, c'est « mon cerveau et moi ». Qu'est-ce que ça signifie, quelque sorte, pour quelqu'un qui dit « mon cerveau et moi » Voilà. Où est le moi? Et c'est un moi qui n'est pas le moi ici, hein, c'est je. Qu'est-ce qui fait que j'énonce quelque chose et en même temps je parle de mon cerveau qui serait comme ça, je ne sais pas, un autre en moi ou qui serait moi, mais dont je ne sais pas exactement quels sont les mobiles.
Oui, mais là, disons, je critique presque une façon oui. habituelle de bien parler, sûr. Effectivement. Mon cerveau me l'a fait faire. C'est oui, aussi c'est une future
si
série.
Si on revient à Sartre, c'est vraiment l'exemple typique de la mauvaise foi.
Oui, hein, voilà, exactement. Mais bon, il faut prendre ça, il faut interpréter ça de manière un peu charitable.
Oui, hein. Cela dit, ça ramène la question de la responsabilité bien juridique. Hein, si je dis, voilà, oh, j'ai tué ma femme, mais bon, je suis désolé, j'avais un kyste au cerveau, c'est pas ma faute.
Tout à fait. Non, non, mais c'est clair qu'il peut y avoir ce que Sartre appelait de la mauvaise foi. Mais il y a aussi des fois simplement le fait qu'on s'est rendu compte que, dans le fond, le cerveau médiatique, notre accès à nous-mêmes et notre accès au monde, d'une certaine manière, on le voit bien dans les maladies dégénératives du cerveau. Pourquoi est-ce qu'elles nous font tellement peur? C'est parce qu'on se perd soi-même, d'une certaine manière. Donc, ça a un sens de dire « mon cerveau, c'est moi-même », mais c'est une sorte de métaphore quand même. Hein. Il faut... Mais comme Platon disait « le moi, c'est l'âme hein. », maintenant certains disent « le moi, c'est le cerveau ». On reproche d'ailleurs à certains auteurs d'avoir simplement remplacé l'âme par le cerveau et qui continuent à tenir exactement le même discours, oui. à certains auteurs américains notamment. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux. Hein. Maintenant, bon... Qu'est-ce que le moi? Alors, les neurobiologistes cherchent l'unité, parce que c'est ça qui était dans ce que Maine de Biran avait déjà souligné, mais contre Gall dans son combat contre la phrénologie. On a l'expérience d'une unité du moi. Elle peut être fragmentée, mais il y a quand même une unité du moi. Et le cerveau, il est multiple, c'est un morceau de matière, et même quand on l'analyse par l'imagerie, on se rend compte qu'il y a des modules, c'est clair, mais tout ça est multiple. Où se fait l'unité? On n'a pas trouvé, pour l'instant on n'a pas trouvé. Il n'y a probablement pas de glande pinéale, de centre de l'unité. Tout ça est sans doute beaucoup plus complexe, on a énormément de choses à apprendre là-dessus. Donc on ne peut pas vraiment répondre à la question.
Il y a bien qu'il y ait quand même une mémoire, justement.
Oui, mais même la mémoire, on voit bien dans les lésions, la mémoire n'est pas à un certain endroit, elle mobilise des réseaux qui sont localisés de façon multiple. Le langage, c'est déjà la même chose. Hein. Et d'ailleurs, un des avantages des lésions, ça, si on peut dire, c'est que ça nous apprend un peu comment nous fonctionnons, parce que les lésions sont des fois très précises, on se rend compte qu'on perd des capacités très particulières. Et c'est surréaliste. Hein. Si on lit la description et les effets de description des lésions, il y a des choses... On ne peut pas même s'imaginer ce que ça peut être. Des gens qui ont un troisième bras, par exemple, qui ont l'impression d'être... Et ce troisième bras, enfin, évidemment, il n'existe pas, mais... Il fait des choses que la personne a toujours vérifié si elle a vraiment fait, si ce bras a fait quelque chose ou pas. Il y a même quelqu'un qui raconte que son troisième bras essaie de l'étrangler. Vous voyez, oui. Bon, ça implique des ruptures de l'unité du moi, c'est clair, oui. liées à des lésions cérébrales.
Ça relève de la lésion cérébrale, ça ne relève pas de l'hallucination, du psychotique.
Non, alors peut-être que ça peut parfois, mais là, il y a des lésions très particulières. Alors, effectivement. Là, encore une fois, quand il y a un désordre mental, il peut avoir une cause mentale ou une cause physique. On ne peut pas savoir a priori. Il faut y aller voir d'une certaine manière.
Oui. Oui, c'est là où, pour moi, il y a un autre registre qui est absolument incontournable, qui est le registre psychique. Entre le cerveau et le monde, il y a des processus psychiques. Et ce que Freud montre, c'est qu'il n'y a justement pas d'unité du moi, hein, que le moi est éclaté. Alors, en plusieurs instances, on peut discuter du modèle, et que donc le moi est l'objet du surmoi, du
oui,
ça,
etc. C'est pour ça qu'on pourrait faire la même critique que tout à l'heure Bernard Machi a dit, voilà, on remplace l'âme par le cerveau, là on pourrait dire l'inconscient, voilà, oui, c'est pas moi, c'est moi l'inconscient.
Sauf que l'inconscient, il est éclaté en processus qui pousse pas tous dans le même sens, et qui a un travail, et que... Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que Freud a délogé aussi, a critiqué très fort la question de libre arbitre et la question du sujet. Et d'ailleurs, il ne l'emploie pas dans la version allemande. Il utilise justement le « je » et non pas le sujet. Oui. Or, le « je », c'est justement très compliqué dans la psychanalyse, parce que justement, c'est celui qui essaye malgré tout de remettre un peu d'unité là où il y a l'éclatement du fonctionnement psychique entre des instances, certaines qui poussent à la morale, d'autres qui sont du côté des pulsions, l'autre du côté du moi et de l'adaptation au monde, et que par rapport aux lésions cérébrales, d'un côté, ou par rapport aux crises sociales de l'autre auxquelles on est confronté, il y a un espace intermédiaire de médiation où le sujet essaye de construire quelque chose, des réponses aux difficultés, aux crises et aux conflits auxquels il est confronté.
Oui, je voulais juste dire, c'est clair. Il serait idiot, à mon sens, de dire que tout est cérébral, pas comme on a dit, tout est génétique, etc. Simplement, le cerveau médiatise toutes nos expériences, notamment sociologiques, psychologiques et autres, mais je pense qu'on a dépassé le cadre de la guerre des disciplines à ce niveau-là.
Marlène Jouan, aidez-nous peut-être aussi à peut-être reformuler justement la notion de sujet libre ou de sujet autonome. Et je crois que dans à la fois les articles que vous avez collectés et puis aussi l'anthologie que vous avez forgée, il y a un certain nombre de notions et qui viennent alors du monde anglo-saxon, j'ai toujours du mal avec anglo-saxon, c'est anglophone disons, parce que saxon. Et donc pourriez-vous, par exemple, nous dire comment la notion d'agency, hein, qui est quand même très utilisée aujourd'hui, je vois, avec toujours ce problème de traduction, permet aussi, on a traduit par agentivité, bon, c'est assez vilain, mais bon, c'est tout ce qu'on a trouvé apparemment en français, comment il y a un certain nombre de, voilà, de notions comme ça qui permettent de, ben, je dirais, d'approcher un sujet à partir de ces qualités, de ses dispositions propres et aussi des déterminations, de ce qu'il fait agir autant que de ce par quoi il agit. Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment voilà, on se reformule à travers cette notion, peut-être une notion de sujet autonome?
Oui, alors le terme effectivement d'agency, agentivité, c'est pour essayer d'aborder le problème de la liberté du point de vue de l'agent et non plus du point de vue du sujet, une vieille notion métaphysique. Parce qu'on a toujours du mal, quand on cherche finalement à définir qu'est-ce que c'est qu'un sujet positivement, à ne pas présupposer un sujet tout-puissant, fondateur, causa sui, même s'il est éclaté, même s'il y a eu la psychanalyse, etc. Le concept d'agent, c'est celui qui fait quelque chose, tout simplement, et pour faire quelque chose, il n'y a pas besoin d'être l'auteur de la totalité des conditions qui vont permettre de faire cette chose.
Voilà, l'agent n'est pas forcément l'acteur.
Voilà, il n'est pas l'auteur, voilà, disons, l'auteur. Nécessairement. L'agentivité, l'intérêt, donc c'est ce point de vue de l'agent, c'est-à-dire le point de vue d'emblée de l'action, le point de vue pratique et non plus le point de vue spéculatif ou métaphysique. Oui. Le deuxième intérêt de la notion, qui est vraiment de la notion anglophone, c'est effectivement d'introduire une notion une dimension de passivité par rapport justement à la traditionnelle notion de sujet qui, encore une fois, fait le sujet celui qui est actif, qui peut se créer lui-même. Une dimension passivité, alors comme vous l'avez dit, c'est-à-dire prendre en compte les dispositions, les qualités, les besoins, les émotions, voilà. Oui, tout ça participe en fait de l'action libre, voilà, au lieu d'en faire des
exactement parce que nous sommes pas tous
des contraintes, voilà. Au lieu d'en faire des
nous sommes pas tous à égalité devant l'action.
Voilà, voilà. Ça, on en fait des éléments, des moments constitutifs de l'action libre. Alors, ils sont pas tous sur le même plan, hein, encore une fois, mais voilà, le défaut, c'est d'en faire l'extérieur ou quelque chose qu'il faudrait limiter. Alors non, ça fait partie de l'action libre, et il faut le conceptualiser, voilà, de cette manière, plutôt, encore une fois, de voir les choses en opposition. Et de ce point de vue-là, alors j'ai une petite remarque sur Sartre, en fait. Je crois que si encore on garde le modèle de Sam, on risque de retomber un petit peu dans les apories sur le sujet comme celui qui peut se créer lui-même, s'auto-déterminer lui-même, en faisant justement, en se dégageant.
Non, ça c'est
même.
Kant, c'est pas Sartre.
Mais Sartre parle aussi de l'autonomie. L'autonomie, c'est l'autonomie du choix. La vraie liberté, c'est l'autonomie du choix. Et ça suppose bien de pouvoir faire se dégager de toutes ces déterminations, aussi bien volitionnelles, aussi bien... je crois en partie, mais je crois que chez Sartre, on retrouve derrière l'autonomie sartrienne, il y a quand même l'idée fondamentale aussi d'une indétermination, au point dont on ne sait plus exactement...
Non, je crois pas. Enfin, je crois Vincent
Gauchat... Dans le dilemme du choix radical, hein, encore une fois, je trouve que c'est assez visible dans cet exemple-là, puisque je ne dois pas m'appuyer ni sur mes sentiments, ni sur les évaluations morales que je peux trouver à disposition, mais je m'appuie sur quoi, dans ces cas-là, pour agir librement?
Non, ça, je crois que c'est pas du tout Sartre, franchement. c'est vraiment... Mais bon, ça, c'est faire une émission là-dessus, mais je crois que Vincent Gauchat pourrait
oui, non, mais bien montrer, sûr.
Parce qu'il a dit dès le départ, c'est, oui, mais... enfin, c'est pas le sujet, mais agentivité, voilà, me paraît quand même une notion.
La notion est intéressante, mais le terme me gêne parce que, par exemple, je sais pas, Bourdieu l'utilise, mais dans sa première, dans sa première partie de son œuvre, hein, les agents, c'est bien du côté de la sociologie, ceux qui sont agents de la volonté d'autrui, en fait. Hein, donc, c'est contradictoire avec la notion que vous essayez de donner, justement, d'agentivité comme un processus où on peut se redonner des marges de manœuvre par rapport à l'action. Et Stalémigramme parle d'état d'agentique, par exemple. Hein, l'état agentique, c'est vraiment se faire l'exécutant de la volonté d'autrui. Et dans les recherches que je fais, par exemple, dans les entreprises ou autres, on voit bien comment il y a un clivage qui se produit, et c'est ça qui m'intéresse, c'est très contradictoire, en fait. C'est pour ça qu'il faut casser, effectivement, cette idée de sujet tout-puissant, mais plutôt parler de processus. Et on voit, par exemple, dans les entreprises, comment le processus du clivage, c'est-à-dire il y a une partie de moi qui accepte passivement de me faire la volonté pour remplir les objectifs que me donne l'entreprise et adhérer à ses valeurs, et puis il y a une partie de moi qui résiste, qui serait mon vrai moi, entre guillemets, évidemment. Et un jour, je réaliserai, c'est celui qui a envie de vivre, de s'occuper de ses enfants, de sa famille, de faire de la peinture sur soi ou de faire le tour du monde en bateau. Et il y a une coexistence des deux. C'est pour ça que l'unité du moi, etc., et l'individu est comme ballotté par des aspirations contradictoires, par des déterminations contradictoires. Il est fabriqué de pièces multiples. Et c'est parce qu'il est fabriqué de pièces multiples qu'il est condamné à choisir. Condamné à être libre. Je trouve que c'est cette dialectique-là, moi, qui m'intéresse. C'est qu'il n'y a effectivement pas de liberté de faire de soi ce qu'on veut, parce qu'on est dans un système de multi-contraintes incroyables.
Sûr, on n'est pas du tout dans la cause à suivre.
Et en même temps, c'est parce que ça pousse dans tous les sens que quelque part, il y a quelque chose que le sujet peut décider, mais pas, qui n'est pas dans la toute-puissance, mais qui est peut-être justement dans ces multiples impuissances dans lesquelles il les met, qui donne une zone d'indétermination dans laquelle il peut produire quelque chose de lui-même.
Madame Marchi.
Oui. Une remarque sur le concept d'agency. Je pense qu'il a aussi un petit avantage qui est de rappeler que nous, en étant des agences, ce qui importe, ce sont les actes. Et on parle souvent de personnes autonomes, mais chez Kant, par exemple, le concept n'existe pas. C'est les actes sont autonomes ou les choix sont autonomes. Et on aurait peut-être avantage parfois à descendre un peu, être un peu plus concret et plutôt de parler de l'autonomie de la personne, de se demander, mais bon, tel acte, dans telle situation, est-il autonome ou pas et quels sont les critères d'autonomie. C'est la première chose. La deuxième, concernant la remarque du moi tiré par des pulsions ou des tendances contradictoires, disons dissonantes, je pense que, bon, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'on a un sentiment de l'unité du moi. Mais là aussi, les neurosciences, probablement, peuvent nous faire progresser sur cette question parce qu'on se rend compte que notre esprit est ce qu'on appelle fortement modulaire. C'est-à-dire, la notion est de Fodor, mais c'est l'idée qu'il y a dans le fond des parties de notre esprit, je ne dis pas du cerveau là, de notre esprit, qui sont dévolues à des tâches particulières, qu'ils font extrêmement bien, mais qui sont très mauvais sur d'autres tâches. Ça a été montré notamment, pour des cas extrêmement simples, l'application de ce qu'on appelle l'implication matérielle en logique, si alors. On est très très fort pour raisonner en si alors dans des contextes normatifs, mais pas du tout dans des contextes descriptifs où on se trompe très souvent. On a un autre module qui est fait pour détecter les tricheurs. On est très très bon pour détecter les tricheurs. C'est pas étonnant puisque la coopération sociale, enfin on a évolué en tant que coopérateur social. Et bien entendu, ces différents modules probablement sont un peu contradictoires. On le voit aussi quand on étudie les dilemmes moraux, la fameuse histoire du wagon fou qui est... Enfin, je ne sais pas si ça vaut la peine de le raconter, mais c'est l'idée que... C'est un dilemme classique. Je crois que c'est Judith Thompson qui l'avait inventé il y a déjà longtemps. C'est un wagon fou qui descend une pente, des ouvriers qui travaillent, 5 ouvriers qui travaillent plus bas. Ils vont être écrasés. Vous pouvez faire dévier le wagon en actionnant un aiguillage, mais sur cette autre partie, il y a une personne qui se trouve et donc ça tuera une personne. Qu'est-ce que vous faites? 90% des gens, j'actionne, parce qu'il vaut mieux qu'une personne meure plutôt que 5. Vous changez légèrement le scénario. Il y a de nouveau un wagon fou qui descend et 5 personnes qui vont être écrasées. Vous êtes sur une passerelle qui est au-dessus du pont. Et vous pouvez, la chose que vous pouvez faire, c'est jeter une très grosse personne qui est à côté de vous sur la voie qui va arrêter le wagon et ça épargnera les 5 autres personnes. Là, ça semble être la même situation. Vous faites quelque chose qui fait un mort plutôt que 5. Or, 90% des personnes ne poussent pas. Là. Pourquoi ? Alors, on a utilisé l'imagerie cérébrale, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes centres qui réagissent. Bon, à partir de là, il faut interpréter, c'est clair. Mais on voit bien que manifestement, on ne peut pas raisonner en utilitarisme massif.
Oui. Mais est-ce que vous pensez franchement que parce que l'imagerie cérébrale nous montrera que c'est parce qu'il y a eu plus d'émotivité à un moment donné ou plus de rationalité à un moment donné, est-ce que franchement, ça nous apporte quelque chose ? On sait très bien que nos choix, de toute façon, il n'y a pas besoin d'imagerie cérébrale pour savoir qu'il y a des moments où on agit plus sous le coup de l'émotion ou plus sous le coup de la raison, s'il faut reprendre ces catégories-là, non ?
Oui, alors ces catégories ont été reprises par Josh Green notamment, mais bon, il y a des... Mark Hauser a affiné l'expérience, ou montre que c'est plus compliqué que ça. On raisonne aussi par la question du principe des actions à double effet, etc. Je crois que ça nous permet de mieux comprendre comment on fonctionne. Bien sûr, les psychologues, depuis longtemps, font de multiples expériences qui nous renseignent très, très bien sur nous-mêmes. L'imagerie cérébrale, c'est une couche de plus. Ça permet d'aller un petit peu plus loin.
Alors, écoutez, l'émission arrive un petit peu à la fin. On n'a plus que 6 minutes à peu près. Je voudrais reposer une question toute simple. C'est sur l'analyse du choix, puisqu'on voit bien que cette notion-là, à travers le libre arbitre, elle est forte. Il y a quand même si c'est une vieille notion, peut-être un peu périmée, libre arbitre, il y a la notion du choix. Voilà. Est-ce qu'on peut dire d'un choix qu'il est libre ou pas ? Et qu'est-ce qui permet de le déterminer ? Pas forcément en extériorité, mais aussi voilà, sur, en intériorité. Qu'est-ce qui permet de dire, voilà, oui, là, j'assume, j'ai fait un choix libre, alors que d'autres diront, tiens, bah, tu l'as, non, c'est un choix contraint, ou bien c'est, de la, bon, c'est un choix soumis, c'est de la soumission volontaire. Est-ce que pour vous, il est encore tenable de dire qu'il y a un critère qui permet de dire qu'un choix est libre ? Alors, qui veut bien me répondre à cette question ? Oui, Marlène Jean.
Bien commencé. Alors, un critère, ça serait sans doute trop demandé. Plusieurs critères, enfin, sans doute pas de critères peut-être positifs, mais au moins l'idée d'isoler les conditions qui feraient obstacle à la perception et par l'agent lui-même des options qui peuvent s'offrir à lui. Et puis, à l'expression aussi de ses propres valeurs dans ces choix-là. Il y a sans doute d'autres critères qui sont des critères, cette fois-ci, matériels ou objectifs. On connaît le problème, par exemple, de l'adaptabilité des préférences. Alors, à un moment donné, si on a que deux choix, on a un choix aussi mauvais que l'autre, forcément, ça diminue. Après, je pourrais prendre un exemple qui est dans le livre, un exemple que donne Raël Yegui. Alors, c'est l'histoire toute simple d'un jeune homme qui finit ses études, qui se marie, et puis... parce que comme ça, ça fera moins d'impôts à payer. Et puis, ils décident d'aller vivre en banlieue parce que les appartements en ville sont trop chers. Et puis, ils ont un enfant, deux enfants. Enfin, ils mènent rapidement une petite vie bien rangée. Et puis, lui, un jour, il se réveille. Il dit, mais il y a quelque chose qui cloche, là. J'ai l'impression que je me suis fait manger ma vie. Et pourtant, personne ne l'a contraint. Ni sa femme, ni ses parents, enfin, ni la une pression sociale, peut-être, à se ranger quand on est adulte. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un l'a contraint. Il n'est pas agi par des causes étrangères. Et en même temps, il n'a pas agi de lui-même complètement. Il a l'impression que sa vie lui est devenue étrangère. Et alors là, il y a ce que un phénomène que Ernst Tugendhat appelle l'occultation des questions pratiques. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne se pose plus les questions du choix. On ne voit plus qu'il y a un choix à faire, on se laisse couler. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose à retrouver de ce côté-là.
Bernard Berchier ou Vincent Jacques.
Oui, moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Oui. C'est de sûr. Cette façon-là, parce que...
Il vous reste une minute en plus.
Parce que je pense qu'on est dans des contradictions.
Oui.
Et j'ai un collègue, Michel Legrand, qui évoquait la volonté involontaire et la réflexivité irréfléchie. Et je dirais que c'est comme ça que ça se pose. C'est-à-dire, l'individu essaye de devenir sujet pour produire son existence. Et je dirais pas produire des actes, parce qu'on est tellement dans l'idéologie de l'action aujourd'hui. Je dirais faire de sa vie une œuvre. Hein, reprenons Hannah Arendt, et que par rapport à ça, c'est dans la réalisation de ce qu'il fait, effectivement, mais d'œuvre, et donc qu'il peut exercer de la créativité et ou de la destructivité.
C'est-à-dire, ce n'est pas forcément bon. Oui, vous le dites en extériorité ou en intériorité ? C'est-à-dire, est-ce que vous, de l'extérieur, pouvez dire, voilà, lui, ben voilà, il fait une œuvre, je ne sais pas, que ce soit une œuvre artistique ou bien une œuvre, ou bien il est complètement dans l'entreprise, et puis voilà, il estime qu'il fait œuvre parce qu'il a une œuvre managériale, par exemple, pourquoi pas ?
Je pense qu'on est éternellement dans cette dialectique entre être sujet et objet de l'action.
D'accord. Mais alors, on est bien sûr sujet et objet. Et qu'est-ce qui permet de dire que c'est une action libre,
c'est là où c'est là où, dans les récits de vie, par exemple, on essaye d'explorer avec les sujets comment eux interprètent a posteriori là où ils ont été sujets, là où ils ont le sentiment d'avoir fait des choix, mais que moi, je ne pourrais pas le déterminer à l'avance.
Bernard Berchier.
Oui, moi, je pense qu'on ne peut pas se passer de cette notion d'action libre, ne serait-ce parce qu'on distingue, et on a raison de distinguer, entre une expérience post-hypnotique, une action post-hypnotique, faite sous influence, et une action habituelle, normale. Et on n'est pas toujours dans des commandantes post-hypnotiques. Donc, on a besoin de cette distinction. Qu'est-ce qui fait la distinction ? Je serais assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que, d'une part, il y a des choix qui expriment la personne qu'on est, qui ne sont pas soumis à des contraintes, et puis d'autres qui n'expriment pas la personne qu'on est, qui sont soumis à des contraintes.
La personne qu'on est, qu'on le sait ?
Est-ce qu'on
est une personne
Si on avait encore une heure, on pourrait peut-être...
Cette personne-là est à construire tous les jours.
C'est ça. Mais, et même, dans les expériences qui expriment ce que l'on est, il y a parfois, ou qui expriment, disons, où on ne se sent pas contraint, il y a des illusions parfois. Les psychologues ont montré avec des expériences qu'on fait choisir, par exemple, une dizaine de personnes en des pyjamas, et ils choisissent tous un pyjama, et on leur demande la raison, ils donnent toutes sortes de bonnes raisons. Or, il se trouve que ces pyjamas étaient rigoureusement identiques, simplement, ils ont systématiquement choisi un pyjama qui était à leur droite. Donc, vous voyez, voilà ce que nous découvrent les psychologues, l'imagerie cérébrale aussi, parce qu'on peut l'aider par là. Et ça, je crois que ça permet de préciser, bon, c'est anecdotique ceci, mais ça permet de préciser un peu quelles sont les limites de notre liberté.
Oui, on peut espérer en tout cas qu'il y a des choix plus importants que ceux
d'un
pyjama.
l'homme.
Je veux dire, je voudrais faire de la philosophie à la manière des
policières.
Peut-être qu'il faut faire cette plongée que j'appelle 15 mic.
Dans l'idée qui paraît d'abord là.
Merci Bernard Bertschy, particulièrement d'être venu à cette émission de loin aujourd'hui. Je rappelle votre livre « La neuroéthique, ce que les neurosciences font à nos conceptions morales » publié aux éditions de La Découverte. Vincent de Golojac, je rappelle donc « Qui est-je ?», hein, sociologie clinique du sujet que vous venez de faire paraître au Seuil. Et Marlène Jouan, « Comment penser l'autonomie entre compétences et dépendance avec Sandra Logier aux Presses universitaires de France ?» et « Psychologie, morale, autonomie, responsabilité, rationalité et pratique » que vous avez dirigé chez Vrin. Voilà, c'était les Vendredis de la philosophie, présentés par François Noudelman, avec la collaboration de Marianne Chasseur. À la technique, eh bien, je ne connais pas son nom, vous pouvez me le dire ? Non. Martin Delafosse, merci. Réalisation, Clotilde Pivin. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une émission sur la langue comme art de vivre.